que Stéphane et Anne-Laure sont là, à tout hasard. Non, ils ne sont pas arrivés. D'accord. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Et pour les, comment dirais-je, ceux qui connaissent, qui sont habitués à lire la parole de Dieu, quand je dis Jean 4, ça vous fait penser à quoi? Est-ce qu'il y en a qui lisent la parole de Dieu de temps en temps? Donc quand je dis Jean 4, est-ce qu'il y en a à qui ça évoque quelque chose? La Samaritaine. La Samaritaine. C'est vrai. C'est vrai. Ça évoque la Samaritaine. La rencontre de Jésus avec cette femme. C'est une rencontre unique. Mais finalement, est-ce que toute rencontre n'est pas unique? Est-ce que chaque rencontre que nous avons faite avec Jésus n'est pas unique? Peut-être tu es là, tu viens pour là les premières fois, tu es dans l'observation, et tu te dis, mais moi je ne connais pas. Tu es au bon endroit pour apprendre à connaître. Mais c'est une histoire de relation. Ce chapitre de Jean, chapitre 4, nous parle de la conversation que Jésus va avoir avec cette femme. Et cette conversation est unique, comme la conversation qu'il veut avoir avec toi, qu'il a avec toi, qu'il a eu déjà depuis le début de ce culte, au travers des chants, de ce temps dans sa présence de Dieu, et qu'il va avoir au travers de la parole de Dieu. Le Seigneur va avoir une conversation personnelle avec toi, te dire des choses à toi personnellement. D'ailleurs, quand il dit à cette femme, tu as dit vrai, celui avec qui tu vis n'est pas ton mari, et tu as eu cinq maris avant. Est-ce qu'il lui disait seulement à elle ou ça concerne tout le monde? Est-ce que ça vous concerne personnellement? Eh oui, heureusement, effectivement. Mais si c'est le cas de quelqu'un, eh bien tu es le bienvenu, parce que tu es au bon endroit pour avoir une conversation avec Jésus et pour que Jésus ait une conversation avec toi. Parce que Jésus ne va pas laisser cette femme dans cette situation-là. Il ne va pas la rejeter parce qu'elle est samaritaine, parce qu'elle est une femme. Et qu'il semble que cette femme ait un mode de vie qui soit un mode de vie qui soit contraire aux enseignements de la parole de Dieu. Bien au contraire, il va parler avec elle, ses disciples vont être surpris. Il va avoir un entretien avec elle. Il va la conduire sur le chemin de la vérité. Et Jésus veut te conduire aussi sur le chemin de la vérité, mais également sur le chemin de la libération. Parce que si cette femme a eu autant de mari et que celui avec qui elle est n'est pas son mari, c'est que certainement elle a cherché le bonheur et peut-être cherché le bonheur dans le couple et elle ne l'a pas trouvé. Mais le véritable bonheur se trouve en Jésus. C'est lui qui nous permet d'atteindre le but, qui nous permet de ne plus pécher. Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Et le Seigneur a quelque chose de particulier aussi à te dire. De même qu'il y a quelque chose de général à nous dire, et le centre de ce message que Jésus a à dire à chacun d'entre nous se trouve au verset 20, verset 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem? Femme, lui dit Jésus, l'heure vient, crois-moi, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas et nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, mais il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jésus va dévoiler un voile extraordinaire de ce qu'est la véritable adoration et de ce que Dieu attend de son peuple. Il va le faire non pas à un connaisseur de la loi, un pharisien, un docteur de la loi. Il ne va même pas le révéler à l'un de ses apôtres, mais il va le révéler à une femme qui n'est même pas de sa race et de sa religion, pour montrer que finalement, le chemin de l'adoration n'est plus réservé simplement qu'à quelques-uns, qu'à quelques élites ou un peuple particulier. Mais l'adoration est réservée en tous les cas. Dieu appelle à l'adoration des peuples de toute langue, de toute culture, de toute race. Amen. Il y avait hier un mariage civil de deux frères et sœurs qui sont kabyles. Alléluia. Alléluia. Et c'est merveilleux. L'Église, elle est cosmopolite dans ce sens que Dieu appelle des hommes de toute culture, de toute nation. Et c'est ça le rassemblement. Et je crois que c'est bien de vivre déjà cette dimension communautaire dans l'Église. C'est ça l'Église, hein, finalement. C'est déjà appelé à vivre ensemble. Qu'est-ce que l'adoration ? Nous utilisons et nous connaissons beaucoup de mots qui sont dans la Bible. Nous les citons, mais nous n'en connaissons pas forcément toujours le sens profond. Et c'est important, et je vous encourage à, quand vous lisez quelque chose, ou quand on vous dit de faire quelque chose ou autre, d'essayer de comprendre pourquoi vous le faites. Ceux qui le font, probablement, savent pourquoi ils le font. En tout cas, c'est à souhaiter. Mais c'est important de savoir nous-mêmes ce que l'on fait, quelle signification ça a. Et puis, quand on parle de mots, comme « je t'adore » et autres, c'est biblique. Mais c'est quand même intéressant de comprendre finalement ce que ça représente. Vous voyez, de rentrer, puis on est là pour ça, pour apprendre. Et toute notre vie sur la terre, on découvrira, on apprendra. Et ces temps-là sont des temps aussi pour mieux apprendre à aimer Dieu finalement et à mieux l'adorer. L'adoration n'est pas nouvelle, elle n'est pas venue avec Jésus. Elle a, je dirais, toujours existé. Il y a plusieurs termes, on ne va pas rentrer dans les termes aussi bien en hébreu qu'en grec qui nous parlent de l'adoration. Mais ce qu'on retrouve dans la signification, dans ce que ça signifie, il y a cette dimension de se prosterner devant quelqu'un pour lui témoigner son respect. Cette dimension de se courber, de s'abaisser, de faire obéissance. Tomber à genoux, tomber face contre terre. Et c'était la façon qu'avaient les orientaux d'adorer. Et on voit ça dans certaines cultures aussi, où ils se mettent à genoux et la face contre terre. C'est une expression physique. Apocalypse 7, verset 11, nous dit que les anges se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent. Même les anges, on le voit là, se prosternent comme physiquement. Et puis, le but de nos rassemblements, c'est quoi ? Le but de nos rassemblements, des enseignements et aussi des paroles qui peuvent être communiquées au travers de dons spirituels, de charismes, c'est biblique, n'est jamais de condamner. Un don spirituel peut dévoiler quelque chose de caché, peut dénoncer un péché, une mauvaise pratique. Mais le but n'est jamais d'enfoncer, de condamner. Le but est toujours d'élever, d'amener à la repentance et de se tourner vers le Seigneur, de changer finalement. C'est une main tendue pour dire « j'ai vu où tu es ». Finalement, c'est ça. C'est pas un doigt qui est montré pour dire « tu es ça ». Voilà. Mais c'est, voyez-le comme une main tendue pour dire « voilà, j'ai vu ta situation, mais je te tends la main afin de t'en sortir ». C'est toujours ça. Les dons spirituels sont là pour consoler, édifier, exhorter. S'il n'y a pas cette dimension-là, alors on peut sortir du cadre de Dieu. La preuve, dans 1 Corinthiens 14, 25, il est dit que le but d'une parole de Dieu qui va être communiquée, c'est que la personne qui vient, peut-être pour là les premières fois, qui va découvrir Dieu, voyant son cœur dévoilé, le but c'est pas qu'elle fuit, mais que tombant sur sa face, 1 Corinthiens 14, 25, tombant sur sa face, elle adorera Dieu. Elle reconnaîtra que Dieu sait tout d'elle et décidera de lui donner sa vie. C'est ça, finalement. C'est-à-dire que le premier acte d'adoration, c'est finalement de donner notre cœur au Seigneur. Peut-être des personnes nouvelles qui ne sont pas sauvées, qui connaissent des choses de Dieu, qui connaissent parce qu'on est dans une culture, enfin on était, c'est en train de se perdre, mais une culture judéo-chrétienne où on a une certaine connaissance de Dieu, de Jésus, et peut-être que tu viens depuis un certain temps à l'église, dans les églises, mais tu n'es pas sauvé. Et peut-être la première chose à faire, c'est de donner ton cœur au Seigneur, de lui demander pardon pour tes péchés. Parce que je constate qu'avant d'amener cette femme sur le chemin de l'adoration, il va d'abord lui parler de qui il est. Il va dire, vous lisez ça dans Jean 4, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé de l'eau à boire et il t'en aurait donné. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire ». Et je crois qu'avant même de parler d'adoration, c'est important de connaître et d'apprendre à connaître Jésus de manière personnelle. La connaissance, au sens biblique, n'étant pas simplement une connaissance intellectuelle, mais étant une rencontre, une découverte. Et puis il dira aussi que celui qui, verset 14, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il lui parle de la vie éternelle. Et Jésus dira, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu, et celui, celui que tu as envoyé. Avant même de parler d'adoration, il faut d'abord rencontrer Jésus. Ce n'est pas possible d'adorer. Et ce serait dangereux de conduire des personnes à adorer Dieu alors qu'elles ne sont pas sauvées. Il faut d'abord les amener à Jésus. Et puis ensuite, avant même de lui parler de l'adoration, de ce qu'est l'adoration, et de vouloir la conduire dans l'adoration, il va quand même lui parler de son péché. En dénonçant son mode de vie sans la condamner. Afin qu'elle l'abandonne. Et à la fin, vous verrez que cette femme, elle va abandonner sa cruche où elle puisait depuis tant d'années. Parce qu'elle a découvert Jésus et en abandonnant sa cruche, elle abandonne son mode de vie passé. Elle n'a plus besoin de pratiquer ça, n'a plus besoin de rechercher, d'aller dans des citernes qui sont crevassées pour prendre et pour prendre et ne jamais être désaltérée sur tous les plans, y compris sur le plan émotionnel. De rechercher sans cesse une quête d'amour de droite, de gauche, sans jamais être satisfait, c'est terrible. Elle abandonne sa cruche, elle n'a plus besoin parce qu'elle a découvert la véritable source. Celle qui désaltère, et Jésus est cette source véritable. Et avant de parler d'adoration, il faut d'abord régler le problème du péché. Parce qu'on ne peut pas adorer Dieu en pratiquant le péché. Il faut s'abstenir d'adorer. Parce qu'à ce moment-là, on s'adore soi-même, on aime l'adoration, mais le but est quand même d'adorer Dieu. Et si tu veux vraiment adorer Dieu, alors il faut que le problème du péché, je ne parle pas de perfection, mais le problème de la pratique, de l'habitude du péché, soit abandonné. Que tu aies découvert qui est Jésus. Que tu aies laissé Jésus venir en toi, te désaltérer, te transformer, mettre en toi une source qui jaillit jusqu'en vie éternelle. Cette communion avec Dieu, ce renouvellement qui fait que tu n'as plus besoin d'aller puiser dans les citernes crevassées de ce monde, là où tu allais avant. Alors là, oui, tu peux commencer à entrer sur le chemin de l'adoration. Avant, c'est pas la peine. Avant, c'est pas la peine. C'est mettre la charrue avant les bœufs. Et c'est conduire les gens dans l'erreur. Finalement, je parlais des dons spirituels, mais Jésus va exercer une parole de connaissance. C'est un don spirituel, vous voyez ça dans 1 Corinthiens 12, c'est-à-dire qu'il va dévoiler ce qui est dans quelque chose qui existe, qui est dans son cœur, que personne ne connaît, en l'occurrence, à ce moment-là. Et Jésus va lui dire, voilà ton mode de vie. L'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari et tu as eu 5 maris. Et la façon dont Jésus l'a dit, cette femme avait certainement, et c'est pour ça qu'il s'adresse à elle, elle avait soif de vérité. Parce qu'elle va dire, mais tu es prophète. Elle aurait pu fuir, mais bien au contraire, elle reste. Elle va pousser plus loin la conversation. Il a réussi à attiser sa curiosité, sa saine curiosité. Je dirais, ce n'est pas sa curiosité, c'est son intérêt. Et Jésus veut attiser ton intérêt. Que tu prennes de l'attention vers lui. De la considération, parce qu'il a quelque chose de bon pour toi. Il a quelque chose de bon pour toi que personne d'autre ne pourra te donner. Que lui seul peut te donner. Lui seul, il va être capable d'étancher cette soif qui est en toi. Cette soif de justice, cette soif de pardon. Je dirais même cette soif de vengeance. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur lui. La vengeance, oui. Dieu est juste. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Et si nous avons vécu une injustice réelle, alors c'est normal, au fond de nous-mêmes, de vouloir réparation. Mais notre façon de réparer les choses, de faire justice, est rarement la bonne façon. D'abord, il y a des lois, il faut utiliser les principes des lois. Dieu merci, nous sommes dans une démocratie. Mais surtout, il faut s'en remettre à la justice de Dieu. Parce qu'il dit que la colère de l'homme n'accomplit jamais la volonté de Dieu. Et Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissez à Dieu. Il est dit de Jésus dans 1 Pierre qu'il s'en remettait à celui qui juge justement. Et Dieu a jugé justement. Il a jugé toutes les injustices, tous les péchés ont été jugés, ont été condamnés. Jésus l'innocent a été frappé pour toutes les injustices du monde, à commencer par les tiennes, à commencer par les miennes. Il a été frappé. La colère de Dieu, le châtiment, la Bible dit, le châtiment qui donne la paix, il est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous pouvons être guéris par la foi en Jésus. Parce que lui a été frappé. Il est capable d'étancher cette soif de justice parce que Jésus est la parfaite justice. Il a été fait justice pour nous. Rentre dans la paix de Dieu maintenant. Abandonne ce désir de vengeance et rentre dans son repos, dans la communion avec lui. C'est ça l'invitation de Dieu. C'est aussi une invitation à rentrer dans sa guérison parce que dans l'œuvre de Jésus, dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Parfaitement. Parfaitement, parfaitement guéri. Et cette guérison s'opère par la réconciliation avec Dieu et par le fait de vivre en communion avec lui. Alors là, oui, maintenant on peut parler d'adoration. On découvre que l'adoration, elle est réservée all inclusive. Mais c'est plutôt all exclusive. Elle est réservée uniquement à Dieu. Et là, on fait un parallèle, mais c'est la différence avec beaucoup d'autres choses. Et par exemple, la louange. La louange n'est pas réservée qu'à Dieu. On peut louer quelqu'un pour ses services, pour ses bienfaits. Louer, c'est dire les bienfaits de quelqu'un. Reconnaître. Honoré, et nous pouvons le faire. Comme nous louons Dieu pour ses bienfaits, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait, comme nous pouvons le louer aussi pour qui il est. Parce que Dieu est digne, Dieu est grand, et on peut aussi être profondément reconnaissant. C'est ça aussi l'adoration, c'est une profonde reconnaissance. Non seulement de ce que Dieu fait, de ce qu'il a fait, mais aussi de ce qu'il est. Nous réalisons qui il est, ce qu'il est pour nous. Quand on prend conscience de qui est Jésus, son abaissement, l'amour de Dieu, on réalise combien il nous aime. On découvre son cœur et ça nous amène à l'adoration. Et ça nous amène aussi à la louange, à le dire « Merci Seigneur ». Pour ton amour, merci parce que tu es patient pour moi, merci Seigneur, parce que tu es juste, parce que tu m'aides, parce que... C'est vrai ou c'est faux? Par contre, l'adoration n'est réservée qu'à Dieu.
Il y a une différence. La louange se fait par la bouche. L'adoration peut s'exprimer par la bouche, mais pas seulement par la bouche. Elle a différentes manières de s'exprimer. Mais c'est plus qu'une activité, c'est plus qu'un acte. On peut, et c'est biblique et c'est bien, inviter à louer le Seigneur. On peut faire un temps de louange, et c'est bien, pour ce que Dieu fait, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est pour nous. Et c'est bien dans l'Église qu'il va pouvoir y avoir la véritable louange, en connaissance de ce que Dieu a fait et de qui il est. Mais l'adoration ne peut pas se décréter. Parce que c'est beaucoup plus que ça. Mais on va voir ça un peu plus loin. Déjà, premièrement, l'adoration est réservée à Dieu seul. Exode 20, versets 1 à 5, vous connaissez les commandements de Dieu. On dit qu'il y en a combien ? On parle des 10 commencements, des 10 commandements de Dieu, qui sont des commandements moraux. Il y en a bien plus, hein, plus de 600 autrement. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et la première des choses, le premier commandement qu'il dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre ou qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Pourquoi ? Parce qu'on découvre que l'homme est créé pour adorer. Toutes les créatures sont créées pour adorer, et l'homme aussi. Et on le voit malheureusement, même le peuple de Dieu. Et c'est quand même assez subtil parce que Moïse s'est absenté un temps. Aaron, quand même, qui n'était pas n'importe qui, était là. Et avec le peuple, ils ont fait un veau d'or. Et ils ont adoré un veau d'or parce qu'ils avaient besoin d'une représentation. C'est terrible. Et ça, c'est le peuple de Dieu. Et il ajoute, « Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Et on découvre une dimension qui est unique par rapport à la louange ou d'autres activités ou comment dire, actes de piété, de dévotion qu'on peut rendre à Dieu. C'est que l'adoration, c'est plus qu'un acte. L'adoration, ça touche beaucoup plus, en tous les cas beaucoup moins à ce que l'on fait qu'à ce que l'on est. L'adoration, elle parle de ce que l'on est. Et de ce qu'on est devant Dieu et de ce que Dieu est pour nous et devant nous. Et l'adoration va amener à se prosterner, c'est-à-dire à tout livrer à Dieu. À tout donner à Dieu. Parce qu'on réalise qui il est. Alors on lui rend tout. C'est en ce sens aussi qu'un véritable don spirituel, le but c'est d'amener les personnes à se repentir, prendre conscience qu'elles sont sur une mauvaise voie et saisir la main de Dieu. Non pas le doigt accusateur, mais la main de Dieu pour se relever et dire « Seigneur, mais tu m'as vu, tu me connais, et pourtant, Seigneur, tu m'aimes tellement, je réalise que tu as donné ta vie pour moi à la croix. Je veux arrêter de me débrouiller tout seul, de couler tout seul, d'être dans ces vies de misère, de péché. Je veux me relever et je te suis profondément reconnaissant. » Et c'est le commencement de la véritable adoration, finalement. Mais l'adoration, c'est se donner à Dieu. Et ça va bien au-delà des paroles, ça peut s'exprimer par les paroles. Mais ça n'a pas forcément besoin des paroles, ça va bien au-delà. Bien au-delà. Je livre ma vie à Dieu, je livre ma vie au Seigneur. C'est pour ça qu'il est dit, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, parce que l'adoration amène à servir. Amène à servir. Automatiquement. Amène à se mettre au service, à se livrer. C'est pour ça que l'adoration, c'est quelque chose de très particulier. Et c'est aussi pour ça que le diable veut l'adoration. Parce que lui, il veut prendre la place de Dieu et il veut être adoré. Il le fait très facilement avec le monde, en utilisant les moyens du monde et des idoles du monde, mais il cherche à le faire Il n'est pas limité, il cherchait à le faire avec Jésus. Matthieu 4. Jésus commence son ministère. Quelle entrée en matière, pourrons-nous dire, hein ? Quel baptême ! Quand il sort de l'eau, comme une colombe qui vient se poser sur lui, le Saint-Esprit, comme une colombe. Quelle manifestation extraordinaire ! Le Père qui fait entendre sa voix, celui-ci mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quel témoignage du Père ! Et voilà que l'Esprit va le conduire dans le désert pour être tenté par le diable. Le diable ne va pas s'en priver. Et une des choses qu'il va chercher tout de suite, qu'il va chercher à dire, à amener Jésus, c'est verset 8. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, Matthieu 4, verset 8, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Vous voyez ce que le diable veut ? Il l'a fait avec Jésus, vous ne croyez pas qu'il va le faire avec nous ? Quel, entre guillemets, quel toupet ! Si tu te prosternes et m'adores, on va dire c'est pas compliqué. Je me mets comme ça, Jésus fait ça, il n'y a pas de souci. Mais derrière, il y a bien autre chose. Jésus va lui dire, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jésus va citer la parole de Dieu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul, parce que la véritable adoration conduit toujours à servir et à se mettre au service, consciemment ou inconsciemment. Toujours. Beaucoup d'exemples, hein. Mais je prends l'exemple du football, par exemple. Vous avez des vrais adorateurs du football. Hier après-midi, je suis repassé par le périph', j'ai dit, pourquoi ça bloque ? Qu'est-ce qui se passe ? Un samedi, qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce que je commence à voir ? Là, plein de voitures, là, au niveau de la Beaujoire. J'ai dit, tac, tac. Je commence à voir des écharpes, des bleus, vert et jaune, c'est ça ? Voilà, avec des gens habillés de la même manière et autres en train de chanter, etc. Se dirigeant vers le même, alors qu'il ne faisait pas beau. Le temps était pluvieux et autres. Voilà des gens qui sont consacrés. On n'a pas besoin d'aller les chercher, on n'a pas besoin de relancer. Parce qu'en eux, il y a quelque chose de fort qui est au-dedans d'eux. C'est qu'ils aiment au point de servir, de se donner, de dépenser de l'argent. Et encore en France, on est, et tant mieux, dans ce domaine-là, des petits joueurs sur le plan du foot et de l'adoration, de la vénération vis-à-vis du foot. Il y a des villes beaucoup plus chaudes comme, par exemple, Marseille ou Paris. Mais dans d'autres pays, vous allez en Espagne, vous allez en Italie. Mais ce sont des véritables dieux. Ça demande l'argent. Ça demande l'argent, ça coûte. Vous allez faire les voyages, les vrais fans. C'est au sacrifice de la famille. Toute la semaine, vous pensez à ça. Vous pensez au week-end où vous allez aller faire le voyage. Vous ne pensez qu'à ça, ça vous habite. Vous pensez à tel joueur quand vous avez une idole. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une idole ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez les posters. Vous écoutez tous ces interviews, vous êtes pris, vous êtes captivé. Il y en a un qui va mettre une barbe comme ça, vous allez mettre une barbe comme ça. Heureusement que les filles n'ont pas la possibilité d'avoir une barbe. Hein. Hein, ce serait... Parce qu'autrement, vous avez en plus de filles qui sont... Alors le sport est très bien, hein, il n'y a pas de sport pour les garçons et pour les filles, mais qui sont prises de la même manière par ce phénomène. Et les médias ont bien réussi, elles continuent de réussir, mais c'est uniquement dans un but mercantile. Parce qu'ils savent que s'ils arrivent à gagner les filles et les femmes, hein, mes amis, quand elles s'y mettent, elles sont entières. Quand elles sont gagnées, ça prend du temps, mais quand elles sont gagnées, ah, alors là, et le diable le sait. Et le diable le sait. C'est pour ça que l'adoration est quelque chose d'extrêmement important. Parce que la véritable adoration nous amène à nous donner. nous amène à donner sans qu'on ait besoin de nous dire, parce qu'on aime, parce qu'on vénère pour Lionel Messi, pour Cristiano Ronaldo, pour peut-être tel chanteur ou telle chanteuse, je suis prêt à faire n'importe quoi. Parce que je le considère comme un dieu. Et ça, c'est voler l'adoration qui n'est réservée qu'à Dieu seul. Vous avez des gens qui adorent leur famille, qui adorent leurs enfants, des gens qui adorent leur travail. Vous avez des gens qui adorent ce qu'ils font. Et dans l'Église, nous pouvons adorer plus l'adoration que Dieu. Nous pouvons adorer plus notre service que Dieu lui-même. Et là, c'est dangereux, c'est subtil. Bien sûr que quand on aime quelque chose et que Dieu nous a donné des talents, alors c'est normal, il y a une passion et c'est normal, ça s'exprime, mais faisons attention dans tous les domaines. Et là, ça va bien au-delà du domaine même de la louange, mais ça peut être, je peux aimer l'évangélisation plus que Dieu. Je peux aimer les enfants, la garderie, plus que Dieu. Je peux adorer ce que je fais. Au point que si on me le retire, c'est un drame. Parce que j'adorais ce que je faisais. Donc si d'un coup, quelqu'un prend ma place, mais c'est un drame. À ce moment-là, notre service peut devenir une idolâtrie. Je parle d'adorer, mais nous pouvons nous-mêmes être l'objet de notre adoration. Nous pouvons nous adorer nous-mêmes. C'est-à-dire, nous nous servons, nous nous nourrissons. Dans le sens où nous nourrissons absolument tous nos besoins, nous cherchons tout par rapport à nous-mêmes. Et dans l'adoration, finalement, le centre d'intérêt n'est plus nous, mais le centre d'intérêt, c'est lui. C'est Dieu. Dans l'adoration, le but n'est pas simplement, moi, de me faire plaisir. Mais le but, c'est d'abord et uniquement de lui faire plaisir et de chercher justement ce qui lui fait plaisir. C'est ça le but premier. Dans l'adoration, moi, je m'oublie. Dieu ne m'oublie pas parce qu'il m'aime. Mais moi, je m'oublie parce que le but, c'est de me mettre à sa disposition. C'est subtil parce que l'apôtre Jean se trouve à la fin de sa vie. C'est un vieillard, un homme de Dieu, un homme qui connaît Jésus, qui l'a connu comme personne ne l'a connu quand Jésus était dans sa chair. Il a développé une relation particulière, unique, d'intimité avec le Seigneur. C'est aussi pour ça que l'évangile de Jean est si particulier. Il est unique. Par rapport aux trois autres évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques. Il est unique, parce qu'il révèle quelque chose que les autres n'ont pas perçu. Et dans la suite aussi, parce que c'est à Jean, l'apôtre Jean, que Jésus va révéler cette vision finale des temps de la fin qu'on appelle l'Apocalypse, parenthèse. Apocalypse, ça ne veut pas dire la fin du monde. Hein. Apocalypse, ça veut dire révélation, qui nous parle, entre autres, des choses de la fin des temps. Et c'est à Jean qui va le révéler. Et à un moment donné, il va voir des choses glorieuses, des personnages glorieux, des anges qui sont glorieux. Et l'apôtre Jean, Apocalypse 16, verset 11, et les anges se tenaient autour du trône. Attendez, excusez-moi. Est-ce que c'est là ? Voilà, c'est ça. Apocalypse 19, verset 10. Un ange va lui parler. Et Jean tombait à ses pieds pour l'adorer. Mais l'ange lui dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Et il ajoutera, adore Dieu seul. Même Jean, dans son expérience, dans son âge, dans sa connaissance de Jésus, il a failli se faire piéger. Il s'est fait piéger. Il s'est mis à adorer une créature. Aussi glorieuse était-elle, mais qu'il n'était qu'une créature, et l'ange qui était un véritable, et c'est en cela que les anges qui sont restés fidèles à Dieu sont des serviteurs de Dieu, c'est en cela qu'il a tenu sa place, il a dit non, surtout ne fais pas ça, ne m'adore pas, je ne suis que ton compagnon de service, aussi glorieux peut-être est mon service ou mon ministère ou mon personnage, adore Dieu seul. L'adoration est réservée à Dieu seul. Et Dieu ne partagera pas sa gloire. Ne partagera pas sa gloire. Il partage son amour, mais il ne partagera pas sa gloire. Dans le sens, parce qu'il dit aussi qu'il nous a glorifiés, donc il nous élève à son rang, à son niveau. Dans ce sens, il nous a glorifiés. Nous le sommes spirituellement, nous le serons quand nous serons avec lui, aussi dans un corps glorieux et autre. Mais il ne partage pas sa gloire dans le sens où, même dans le ciel, nous ne serons jamais adorés. Mais nous adorerons l'activité première et principale du ciel sera l'adoration. Parce que les mots manqueront. D'ailleurs, les anges, à un moment donné, vont simplement dire, les mots sont limités, hein, pourtant, à un moment, simplement, saint, saint, saint et l'éternel. Saint, saint, saint et l'éternel. Les mots manquent, mais il y a une telle révélation de Dieu, une telle appréciation de Dieu, il y a un poids d'appréciation de Dieu que finalement, on découvre que l'adoration, ça vient bien au-delà des mots. Ça va bien au-delà des mots. Ça part d'une juste appréciation de qui est Dieu, de ce qu'il a fait, de qui il est. Alors une profonde reconnaissance, une profonde vénération jaillit dans nos cœurs, un profond respect qui nous amène à nous rendre, à rendre les armes, à rendre nos raisonnements et à nous soumettre à lui. Disant, Seigneur, je me donne à toi. Je ne veux plus simplement t'utiliser pour moi, je veux faire ça, moi, je veux faire ça. Mais Seigneur, je me donne à toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Parce que le but de ma vie, c'est de pouvoir t'adorer. Et si possible, si tu le permets, de pouvoir conduire d'autres aussi à t'adorer. On peut dire que l'adoration est réservée à Dieu seul. Et on découvre que les mages, Matthieu 2,2, vous vous souvenez, on est dans la période de Noël, ce que représente finalement, ce que symbolise finalement, ça représente la naissance de Jésus, c'est nous qui donnons du sens aussi à ça. Il est dit, les mages sont venus, ils disent, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et quand ils l'ont vu, ils se sont prosternés. Et ils l'adorèrent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en plus? C'est qu'ils ont ouvert tout leur trésor. Et ils l'ont offert à Jésus. On voit que l'adoration va amener à se prosterner, à tout rendre à Jésus. Et à lui offrir, non pas venir simplement pour demander, de prendre de Jésus, mais pour lui offrir ce que nous avons de meilleur. Non pas pour dire, voilà ce que j'ai, donc voilà, moi, voilà comment je pense que ça va être utilisé. J'ai ça, donc voilà comment moi je pense que ça va être. Mais dire, Seigneur, je te donne tout, parce que tout vient de toi, c'est une grâce, et c'est toi qui l'utilises comme tu as envie, Seigneur. Dans l'adoration, nous ne sommes que des instruments. C'est lui, l'artiste. C'est lui qui joue avec nos vies, pas dans le mauvais sens du terme, mais comme il le veut. Comme il le veut. Autant qu'il le veut, et quand il le veut. Jésus est adoré parce qu'il est Dieu, tout simplement. Dieu venu en chair et en os est glorifié aujourd'hui à la droite de la majesté divine. Jean 5, verset 20-23, Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé, honoré, respecté. Il n'y a pas de chemin On ne peut pas dire, moi je veux honorer Dieu, mais ne pas honorer le Fils. Ce n'est pas possible. J'adore Dieu, mais je n'adore pas le Fils. Des millions, malheureusement, peut-être même des milliards, quelques milliards de personnes sur la terre adorent Dieu, pensent adorer Dieu. Mais s'ils refusent d'honorer le Fils, alors ils n'honorent pas non plus le Père. Et l'adoration ne vaut rien. Même si la sincérité est là. Maintenant, comment adorer Dieu ? Il dira, ceux qui l'adorent, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. En esprit, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que Dieu est esprit et que l'adoration qu'on lui adresse doit d'abord l'être aussi, c'est-à-dire qu'elle est spirituelle. L'adoration est une activité spirituelle. Même si parce que nous sommes tripartite, nous sommes un esprit, une âme, un corps, alors on le voit dans le fait de nous prosterner, de tout lui donner, ça a un retentissement physique, parfois matériel, un retentissement, comment dirais-je, psychique, où nos émotions peuvent vibrer, notre corps peut s'exprimer, mais c'est d'abord une activité spirituelle, parce que Dieu est esprit. Et donc on ne peut pas adorer comme on adore quelqu'un. Dieu est esprit, et c'est spirituellement qu'on doit adorer Dieu. Et c'est important d'apprendre à connaître ce Dieu aussi, pour savoir aussi comment l'adorer. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Hébreux 13, 15 nous dit que par Jésus offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Nous n'avons plus besoin d'offrir, comme sous le modèle de l'Ancien Testament, des sacrifices d'animaux. Parce que le sacrifice parfait a été offert. Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, a offert sa vie en sacrifice pour nous. Maintenant, ce que Dieu attend de nous, c'est le fruit de lèvres qui confesse son nom, une vie qui lui est donnée, qui lui est offerte, et dont il va pouvoir disposer. Adorer Dieu en vérité. Ça veut dire que ce n'est pas selon nous, à notre sauce, à notre manière. On fera Noël à notre manière. Et personne ne va nous dire qu'il faut le faire comme ça ou comme ça. Tu fais ce que tu veux chez toi. Mais adorer Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Il faut le faire en vérité. Pas selon notre vérité, mais selon la vérité. Et ça, on voit qu'il y a une manière bien précise de le faire. Il y avait une manière bien précise de le faire sous l'Ancienne Alliance, codifiée notamment par la loi avec Moïse, avec dans le tabernacle, dans le désert, puis ensuite dans le temple. Il y avait une façon bien particulière d'adorer Dieu. Et David, qui était un véritable roi, mais un roi adorateur, s'en est mordu les doigts pendant un temps. Sa relation avec Dieu a pris il y a eu un grand coup de froid, parce qu'un homme, un serviteur, a enfreint un principe de Dieu au moment où ils ont ramené l'arche qui s'était égarée. Ils l'ont fait avec sincérité, avec émotion. Il y avait toutes sortes d'expressions qui étaient là, de joie. Mais à un moment donné, l'arche était là en train de tomber parce qu'elle était conduite par des bœufs sur un char neuf. Ça, c'est la façon du monde. La sincérité était là, les émotions étaient là, mais les principes spirituels n'étaient plus là. Cet homme, je crois, Uzza a touché et il a été foudroyé et ça a créé une peur. Il n'est pas dit que David a craint Dieu, mais il a eu peur de Dieu. Il n'a pas compris jusqu'au moment où ils ont compris finalement qu'il n'avait pas servi selon la loi, selon les principes spirituels. Il y a des principes. Nous ne pouvons pas faire ça à notre sauce, mais selon Dieu. Apprendre à le découvrir pour apprendre à adorer selon Dieu. Et puis sous la Nouvelle Alliance, l'adoration ne peut se faire, l'adoration à Dieu, le Père, ne peut se faire qu'au travers de Jésus seul. Il en est de l'adoration comme du salut. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il dit, je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Mais c'est pareil, vouloir adorer sans passer par Jésus, c'est ne pas atteindre le but. Et le but, c'est d'atteindre le cœur de Dieu, le cœur du Père. Hébreux 10, 19, il dit « Ainsi donc, mes frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle, vivante, qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est la route qui nous conduit au Père, qui nous conduit à l'adoration toujours. Selon la vérité, ça veut dire aussi, c'est selon le modèle de la vérité biblique, selon le modèle de la parole de Dieu. Psaume 119, David dira, ta parole est la vérité. L'adoration, elle est basée non pas sur notre imagination, notre conception, notre façon d'être, même si les formes peuvent différer, mais le fond ne doit pas changer. Elle est basée sur la vérité de la parole de Dieu, et du coup, nous avons besoin de plonger nos regards dans la parole de Dieu pour comprendre comment nous allons plaire à Dieu. Parce que dans l'adoration, le but, c'est de plaire à Dieu. C'est ça. Dans l'adoration, c'est ça. Une des définitions de l'adoration, c'est rendre un culte. C'est rendre un culte à Dieu. Et pour terminer, où l'adorer ? Parce que cette Samaritaine va dire, vous vous adorez à Jérusalem, nous nous adorons sur le mont Garizim. Il y avait des lieux géographiques. Où devons-nous adorer ? C'est une bonne question. Où devons-nous adorer ? À chaque fois, c'était des temples, des endroits. Où devons-nous adorer ? Jésus parle d'une adoration en esprit, en vérité. Il dit, ça n'est ni à Jérusalem spécialement, ni à tel endroit, sur le mont Garizim. Pourquoi ? Parce que maintenant, le temple, le nouveau temple, quel est-il ? Où est-il ? Il est où ? Alors, il est en nous absolument. Il est déjà dans l'Église, parce que Jésus dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc le Seigneur est là, il tabernacle, il habite au milieu de nous, par son esprit. Et donc l'adoration, le lieu d'adoration privilégié, d'où va jaillir finalement l'adoration qui va plaire à Dieu, c'est au milieu de l'Église. C'est au milieu du rassemblement des croyants, quel que soit le local dans lequel nous nous trouvons. Ça peut être dans une cave, ça peut être, pourquoi pas, même dans un palais ou n'importe quoi. Ça n'a aucune importance. Ou sur un champ d'herbe. Mais c'est là où les enfants de Dieu sont réunis. Alors, ils vont pouvoir véritablement, en pleine reconnaissance, s'offrir à Dieu. L'adoration, ce n'est pas offrir quelque chose à Dieu. C'est d'abord s'offrir soi-même. Et alors, découlera, parce que en nous offrant nous-mêmes, nous pouvons avoir des choses à offrir. Mais ce n'est pas tant ce que nous avons qui compte, c'est nous-mêmes. Cette pauvre femme, cette veuve, à un moment donné, lors d'un service religieux, a voulu aussi offrir quelque chose. Elle n'avait que petite pièce de rien du tout. Elle était pauvre, elle était méprisée des religieux, des gens, parce que ça ne faisait pas beaucoup de bruit. Mais Jésus regardait pas simplement ce qu'elle donnait, mais il regardait comment elle donnait. Il regardait comment elle donnait. Et là, on voit là une notion très, très importante. C'est que la louange est de notre bouche. Nous pouvons louer le Seigneur pour ce qu'il a fait. Seigneur, merci pour ta grandeur, pour ton amour, pour ce que tu as fait. Mais l'adoration demande beaucoup plus. L'adoration demande à ce qu'il y ait une connexion directe avec notre cœur. C'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus dira, un texte qui est repris de l'Ancien Testament, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il m'adore des lèvres, il n'y a pas de problème. Mais là, du coup, Dieu dit, c'est disqualifié, c'est pas de l'adoration. Il vaut mieux à ce moment-là ne rien faire. Examiner son cœur, rentrer en soi-même. La Bible nous parle de cœur partagé. Qu'un cœur partagé n'obtiendra rien de bon, ne pourra pas obtenir, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux dans le bon sens du terme. Il veut notre cœur entier. Dans l'adoration, c'est d'abord notre cœur. Et cette femme, elle a tout compris, même si elle avait peu de choses dans ses poches, elle s'est offerte elle-même avec ce qu'elle avait. Et Jésus a vu, parce qu'il dit, eux, ils ont donné de leur superflu, ils ont donné. Ils ont fait des actes de charité, des actes de piété. Mais elle s'est donnée elle-même avec ce qu'elle avait. Et le peu qu'elle avait ne l'a pas empêché de se donner. Parfois, des gens disent, mais moi, si j'avais. Oui, mais ce que tu as, cette femme avait peu. Elle a donné, elle s'est donnée. Et Dieu a vu. parce qu'il dit qu'elle, elle a donné de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Et vous allez me dire, quel grand sacrifice. On entend souvent ça, et c'est aussi un passage que David va donner, mais je crois qu'il faut comprendre un peu plus ce sens. Je n'offrirai rien à Dieu qui ne me coûte. On est sous le principe de l'ancienne alliance. Mais je crois que pour cette femme, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Imaginez-vous. Mais je crois qu'elle n'a pas fait un grand sacrifice. Tout simplement parce qu'elle a donné en proportion de ce qu'elle aimait. Et en proportion de ce que Jésus représentait pour elle. Alors elle s'est donnée complètement. Et pour elle, ça ne représentait pas un sacrifice. Et quand pour nous, ça représente un sacrifice, alors il faut se poser la question de notre relation avec Dieu. Adorer Dieu, c'est rentrer dans une relation d'amour avec lui. Adorer, c'est quelque part, c'est aimer Dieu. Mais de manière unique, comme on ne pourra jamais aimer personne d'autre. Et donc, lui donner, lui offrir tout de nos vies. Et pour terminer, je pense en domaine d'un acte d'adoration. Cette femme n'a pas parlé, hein, mais quel acte d'adoration ? Je pense, et pour terminer, à Abraham, Genèse 22. Abraham va monter, va aller sur le mont Morija avec son fils, son ado, le couteau, le bois, prêt à adorer. Il va dire aux serviteurs, restez ici, nous revenons, nous sommes montés pour adorer. Quelle adoration extraordinaire. Il donne ce qu'il a de plus cher. Il donne ce qu'il a de plus cher. Et l'adoration nous amène finalement, bien au-delà des mots, comme un chant le dit, à donner ce que nous avons de plus cher, parce que nous considérons que c'est quelque chose de normal. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu ne va pas faire n'importe quoi de nous. Il est venu, mais Dieu n'a pas pris son fils. Il lui a laissé. Parce que Dieu s'est pourvu lui-même, et Dieu se pourvoira toujours lui-même. Tu seras toujours gagnant avec Dieu. Parce que Dieu te bénira tellement au-delà de ce que tu peux imaginer. Si tu viens avec ce cœur-là, que tu décides vraiment de rentrer dans ce chemin d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci de la bénir dans nos cœurs, Seigneur. Merci de nous enseigner, comme tu l'as fait avec cette femme, Seigneur. Je crois qu'au travers de cette femme, c'est à nous que tu veux enseigner le véritable chemin de l'adoration. Ce qui plaît à ton cœur, parce que c'est ça le but. C'est de te plaire au travers de ce que nous sommes, au travers de ce que nous faisons, au travers de ce que nous disons, au travers de notre service, Seigneur Jésus. Nous voulons réjouir ton cœur de Père. Merci de bénir mon frère, de bénir ma sœur, de bénir là les personnes nouvelles qui sont là, qui découvrent peut-être, pour qui c'est tout nouveau. Je te prie de te révéler à elles de manière personnelle, de leur montrer ton amour, de leur montrer que tu leur tends les mains, que tu leur tends la main pour les relever, non pas pour les juger, mais pour les sortir de leur situation et les amener sur ton chemin, un chemin de libération, un chemin de vérité, un chemin de plénitude en toi, un chemin d'espérance, Seigneur. Montre-leur que l'acte d'adoration que tu attends d'eux, c'est simplement qu'ils te donnent leur cœur, sans raisonner, qu'ils te donnent leur vie. Je te demande, Père, au nom de Jésus. Amen.